Patriarca, 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 patrie, patriarca, patrie.
La parole est pleine pour les miens, pour que le beat tienne, le micro en main, que mon message parvienne.
C'est la révolte des femmes de ménage, des camionneuses et des petites filles bien sages.
Whatever Lola wants, Lola gets.
Résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste.
I wanna be a butch, I wanna be a butch, 'cause butchs are strong and sensitive. Butchs are sexy and wonderful, powerful and brave and queer and straight lies and whores.
Et on se prend la main. Et on se prend la main. Une fille au masculin, un garçon au féminin.
L'émission pour
déranger.
Une émission féministe.
Les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois.
De 18h30
à 20h.
Sur Radio Kaleidoscope
97 FM.
1h30 de féminisme pur.
Bonsoir.
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 Alors, ce soir, Dégenré fait sa rentrée, donc rentrée un peu tardive, hein, mais je crois qu'on nous on revendique qu'on est contre le productivisme forcené, et qu'on défend le droit à l'oisiveté. Alors voilà, on n'arrive que maintenant, mais voilà, malheureusement, pendant cette longue période sans nous, le capitalisme, le patriarcat et tous les autres systèmes de domination ne sont pas tombés. Alors on est toujours en lutte et voilà, c'est tout ça qu'on va vous parler ce soir, des luttes de meufs, de gouines, de trans, un peu partout en France et à l'étranger.
Alors, pour commencer, déjà, on voulait vous parler de l'Existrance, qui est une marche revendicative de personnes trans et de personnes qui les soutiennent. Et elle a lieu tous les ans. Et cette année, c'était samedi dernier à Paris, du coup, le 20 octobre. Et du coup, sur leur affiche, c'était « Des papiers si je veux, quand je veux », puisque leur première revendication, c'est le changement d'état civil sans condition, sans obligation de stérilisation et de suivi psychiatrique. Et du coup, aussi beaucoup, c'était autour de la stigmatisation et de la marginalisation des personnes trans. Enfin, contre ça, bien sûr. Et alors, je peux vous lire les autres revendications. C'était aussi le libre choix des médecins, avec le maintien des remboursements de parcours de transition, que ce soit en France ou à l'étranger. La reconnaissance de la transphobie comme une discrimination liée à l'identité de genre et non pas à l'identité sexuelle. La lutte contre la transphobie par des campagnes nationales de sensibilisation, la formation et la sensibilisation des personnes en contact avec des personnes trans, des recherches sur la prise d'hormones à long terme et aussi sur les interactions qu'il y a entre l'hormonothérapie et les ARV. Les ARV, c'est les antirétrovirus, c'est un médicament qui est notamment utilisé dans le traitement contre le VIH-Sida. Faire plus de campagnes de prévention contre le VIH-Sida, les hépatites et les IST en direction des personnes trans, l'abolition de la loi sur le racolage public et le refus de la pénalisation des clients des travailleurs et travailleuses du sexe qui aggravent la précarité des personnes trans concernées, le respect de l'identité de genre et l'amélioration des conditions des personnes trans en prison, faciliter la régularisation des personnes trans migrantes, et le démantèlement immédiat des équipes hospitalières en charge des questions trans. Avec aussi un de leurs slogans, c'était « Craignons la transphobie et les discriminations, pas les trans ». Et alors, dans ce cadre-là, on a trouvé un texte qui est sur un blog qui s'appelle « Vernis noir et lacets rouges », l'ancien blog qui s'appelait « Vernis et sécateur » avant. Et qui est un texte qui a, si j'ai bien compris, il a été distribué pendant l'existence. Et on avait envie de vous le lire parce que même si on n'est pas des personnes trans ici et globalement non dégenrées, et ben c'est quand même un texte qui nous parle et qu'on trouve vraiment chouette. Alors le titre c'est Face à la transphobie, ni oubli ni pardon.
Oi, oi, oi.
Nous sommes des skinheads trans, ou des personnes trans qui nous reconnaissons au moins en partie dans les codes de la culture skinhead antifasciste, même si nous sommes critiques de certains des aspects virilistes ou de la prédominance de mecs hétérosexuels cis dans ces milieux. Nous défendons les revendications qui permettent d'améliorer les conditions de vie des personnes trans, qu'il s'agisse de l'accès aux traitements médicaux ou concernant le changement d'état civil, même si nous ne sommes adeptes ni de l'état ni de la civilité. Nous luttons contre la transphobie, la misogynie et la lesbophobie que nous subissons au quotidien. Nous croyons dans ce domaine à l'autodéfense féministe, à l'auto-organisation et à la lutte directe. Nous ne sommes pas contre la pédagogie et l'éducation, mais nous en avons marre qu'on nous explique en permanence que nous devrions passer notre temps à donner des explications et à justifier notre existence au groupe dominant. Nous pensons qu'avoir quelques dents pétées après avoir traité quelqu'un de travelot ou après avoir mis la main au cul d'une meuf peut aussi être une forme de pédagogie et inciter à ne pas recommencer. Nous dénonçons le racisme et l'islamophobie, et notamment l'instrumentalisation de nos luttes à des fins racistes et islamophobes, visant à faire passer les immigrés et les musulmans comme les seuls responsables de la misogynie, de la lesbophobie ou de la transphobie, alors que ceux qui ont le vrai pouvoir et pourrissent véritablement nos vies sont en général des mecs blancs riches. Nous croyons toujours à la lutte des classes et à la nécessité du combat anticapitaliste. Par conséquent, même si nous dénonçons évidemment la transphobie qu'ils et elles peuvent subir, nous ne considérons pas les trans patronnes, flics ou douaniers-douanières comme des alliés ou des camarades, mais comme des ennemis de classe. De la même façon, nous luttons contre la misogynie, la lesbophobie et la transphobie que nous subissons dans les luttes anticapitalistes, antifascistes, syndicales, etc. et qui nous empêchent régulièrement de prendre pleinement part à ces luttes. Si nous soutenons les revendications concrètes qui permettent d'améliorer nos vies en tant que personnes trans, nous ne pensons pas que quelques articles de loi ou que l'application des droits de l'homme bourgeois seront suffisants pour détruire les mécanismes d'oppression que nous vivons au quotidien. Nous ne réclamons pas de tolérance et nous n'attendons aucune pitié. Nous voulons voir le système hétéropatriarcal, capitaliste et colonialiste pendre au bout d'une potence. Oi. Et c'est signé Transhead, rude transboy et rude transgirl contre l'hétéro-patriarcapitalisme. Voilà.
Et donc voilà, si vous voulez retrouver ce texte, c'est donc sur Lacets Rouges et Vernis Noir, qui est un blog.
Vernis Noir et Lacets Rouges, ouais. On retrouve facilement. Ouais. Quoi. Je crois que l'adresse c'est, du blog, c'est Pink Rêverie.
D'accord. Et du coup, il y a... Là, c'était donc une manif samedi dernier. Du coup, ça y est, c'est la rentrée des manifs. Là,
D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai dit au début, mais il y avait plus de 1000 personnes à l'existence cette année.
Ouais, du coup, à Paris. Ouais. Et on voulait enchaîner avec un appel à une manifestation qui sera ce samedi 27 octobre à Lyon. Donc, avec un rendez-vous à 14h pour un rassemblement Place des Terreaux.
Tu veux dire place des hétéros?
Non, justement, en fait, le but, c'est que cette place, pour une fois, ne laisse pas obligatoirement place à l'hétéro-pride, la fierté hétéro, que nous pouvons y voir d'habitude comme partout. Mais c'est un appel, entre autres, par le collectif lesbien lyonnais, mais il y a pas mal d'autres signataires aussi, par rapport, en fait... au projet de loi qui doit être présenté prochainement sur l'accès au mariage et à l'adoption pour les couples homosexuels. Et en fait, le rassemblement, il est par rapport justement aux oublis dans la proposition actuelle de loi. Sachant qu'en fait, ces deux oublis, ils faisaient quand même partie des promesses électorales, en fait. Qui sont l'accès pour les couples lesbiens à la procréation médicalement assistée, donc PMA, et le droit aussi à la filiation, donc à la présomption de paternité pour les couples de même sexe, de la même manière que ça se passe actuellement pour les couples hétéros. Donc il faut savoir que actuellement, si des lesbiennes veulent avoir accès à la procréation médicalement assistée, elles doivent aller dans des pays voisins qui l'autorisent, parce que voilà, c'est pas autorisé en France. Et ces deux parties qui normalement devaient être contenues dans la loi sont actuellement dans les premières propositions a priori enlevées, qui a l'air d'être un peu la position... officiel, enfin disons qu'il y a une discussion aussi en cours là-dessus, donc le but c'est entre autres de cette manifestation, mais aussi actuellement c'est de faire pression là-dessus, avec aussi cette idée que si à un moment le discours ça serait soi-disant une loi d'égalité en fait entre couples homo ou hétéro, et il faut que ça soit une réelle égalité. Là, je parle bien en droit, au niveau légal, etc. Par exemple, que la PMA et la filiation soient présentes comme pour des couples hétéros, quoi. Sinon, encore une fois, ça fait une histoire de mariage au rabais ou de droit au rabais pour les couples homo. Alors, par rapport à ça aussi, par exemple, moi, personnellement, en tant que Gwyn féministe ou, je sais pas, dégenrée, etc., ça peut être aussi que l'accès au mariage ou à la procréation, c'est pas obligatoirement, ma lutte prioritaire. Ou disons qu'en fait, plus, ce que je peux regretter, c'est que actuellement, dans une visibilité, par exemple, médiatique, c'est que ça qui ressort, en fait, des luttes LGBT, quoi, que c'est hyper axé là-dessus et qu'en fait, il n'y a pas de discours, en tout cas visible, sur autre chose, alors que, il y a plein d'autres choses... dont on pourrait parler.
Oui, puis un peu comme si le jour où il y aura l'accès au mariage, le droit à l'adoption, l'égalité existera, quoi. Un truc un peu comme ça.
Oui, voilà, qui est en fait toujours la différence entre ça veut dire quoi, en fait, une égalité au niveau légal et une réelle égalité au niveau de la société. Cela dit, pour moi, je trouve ça quand même important de se mobiliser là-dessus parce que déjà, pour pouvoir refuser quelque chose, il faut déjà y avoir accès. Donc, par exemple, si j'ai pas envie de me marier, pour pouvoir le refuser, il faut déjà que je puisse avoir droit de me marier. Et puis que, par exemple, bon pour les histoires aussi, d'adoption, de filiation, etc., je trouve qu'en fait, ça pose aussi d'autres questions, parce que ça pose des questions pour, en fait, des enfants et des parents, en fait, qui existent déjà, qui sont là, et en fait, qui rendent leur vie supra-compliquée, là, en l'absence de reconnaissance, par exemple, de ces familles ou de ces liens parents-enfants, etc. Après aussi, au niveau du mariage, je trouve que c'est aussi important de se mobiliser là-dessus, parce que, entre autres, ça permet aussi l'accès aux mêmes droits que pour les hétéros, par exemple, pour des couples où une des personnes du couple serait sans papier étrangère. Ça permet aussi, par exemple, l'obtention de papier, ce qui n'est pas possible actuellement pour les couples homo, qui est réservé, même avec toutes les complications que ça a, mais qu'aux couples hétéros. Donc, je trouve ça important aussi, dans ce cadre-là, de se bouger là-dessus. Par rapport à ça, je pense que vous en avez entendu parler, mais ça fait aussi plein de réactions, là, tout ce projet de loi sur le mariage et l'adoption. Donc on peut entendre des horreurs
que ça soit politique, dans les médias, etc. Enfin bon, voilà, on va pas vous faire la liste de toutes les citations homophobes qu'on peut se frapper, mais voilà, ça fait vraiment des réactions, qui était aussi un des enjeux, en fait, de faire passer la loi rapidement. Parce que, ben voilà, tout le lobby réac avait aussi annoncé que, ben, en gros, eux, ils se mobiliseraient
ils
vraiment
pas laisser passer
contre
ça,
la loi. Et du coup, ben voilà, vraiment, en faisant des manifestations, du lobbying, etc. Donc, en fait, plus ça tarde, plus ça permet, en fait, à tout ça de s'organiser et avoir aussi une déferlante de propos homophobes, que ce soit dans les médias, dans la rue, etc. Par exemple, hier, mardi, il y a eu des manifestations dans, a priori, 75 villes de France qui ont été faites à l'appel d'une asso pro-vie qui s'appelle Alliance Vita, donc, qui a été créée par Christine Boutin, qui est quand même aussi une des chefs de file catho-réac homophobe qui sort des perles régulièrement, quoi.
Et qui fait quand même partie de la droite très majoritaire, enfin, qui est très majoritaire, quoi. Ça fait partie de l'UMP, donc c'est... Ils ont beaucoup de place partout, quoi, dans les médias, à l'Assemblée nationale, etc.
Oui, oui, puis en plus, avec aussi des... des propos super homophobes qui ont été tenus, c'est pas l'apanage que de la droite, quoi. Enfin...
Oui, ce serait...
Et justement, il y a aussi une division, en fait, actuellement, même à l'intérieur du PS et de la majorité, sur jusqu'où va aller cette loi et dans quelle rapidité, justement, elle va être passée. Et que là, en fait, ce qu'ils font, c'est plutôt qu'ils n'arrêtent pas de reculer. Alors, pour vous donner un peu une idée de ces manifs, clairement homophobes, alors avec des superbes mises en scène, donc les femmes habillées en rose et blanc, les hommes habillés en vert et noir pour montrer que, voilà, un homme, une femme, c'est différent. Et alors après, a priori, ils faisaient des mêlées qui étaient censées représenter un œuf en gestation de sort. Fœtus, du coup, vêtu d'aile. Enfin, voilà, un sens... théâtral chez des réacs, assez magnifique. Donc cela dit, il y a quand même eu aussi pas mal de contre-manifestations organisées en réaction par rapport à ça.
D'où l'importance peut-être aussi de se mobiliser, c'est pour pas laisser le terrain à tous ces... toutes ces personnes réactionnaires, conservatrices, etc. quoi. C'est aussi ça qui donne envie de sortir dans la rue, quoi.
Oui, effectivement. Et juste un peu pour conclure, sur en fait là où ça en est sur la présentation du projet de loi. Donc, il doit être présenté le 7 novembre en Conseil des ministres. Et là, les dernières déclarations, c'est qu'il ne serait pas examiné à l'Assemblée avant fin janvier 2013, quoi. D'où le truc de reculer, parce qu'il devait être normalement examiné plus tôt. Sachant que, par exemple, Alliance Vita, mais aussi tous les lobbies réac, conservateurs, pro-famille, etc., ils annoncent d'emblée de nouvelles manifestations, etc. Donc, on en reparlera peut-être à dégenrer pour aussi pouvoir faire un contre-discours là-dessus, des contre-manifestations, et être visible à ce niveau-là. Et pour vous rappeler, à Lyon, ça sera le samedi 27 octobre à 14h.
On va s'écouter un petit morceau de musique.
Ouais, on va écouter un morceau de Souki. Souki, c'est une rappeuse berlinoise qui a vraiment la classe et avec des textes super engagés sur plein de trucs. Là, le morceau, il s'appelle Pro Homo et c'est un morceau avec Tapette, qui peut-être ne se prononce pas comme ça, mais peut-être tapeteux, je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouvais ça plus drôle si c'était Souki et Tapette pour Pro Homo.
Schwierig. Oh, Arne ist... Hip-Hop hat Probleme, weil ein Großteil dieser Szene nicht drauf klarkommen will, dass Männer nun mal Männer auch begehren. Sie wollen ihm verwehren, ihre Liebe auch zu leben. Dieser Track will was bewegen, bin dafür und nicht dagegen. Es ist Pro-Homo, Hip-Hop kann nichts dafür, die Gesellschaft verschloss schon lange die Tür. Denn der Mann gilt als Mann, wenn es verlangt, was er spürt, sich dominant verhält, niemals ein anderer Mann berührt. Die Norm geht noch weiter, betrifft sogar Kleider, die Moves und die Sprache, man darf niemals weiter. Sonst heißt es ganz einfach, bist du schwul oder was? Der bitterste Zweifel an cool und an krass. Es gibt nicht nur in Baggies, es gibt auch mit Krawatte in allen Schichten im Einzel, vor allem in der Masse. Der Manager, der Keeper an der Tür und am Tor. Guck die
Kameraden brüllen als Brüder im Chor. Doch in der Mitte, links oder im Gotteshaus gibt starre Männerbilder und diese hoffen drauf, dass niemand erkennt, wie fragil sie sind und deswegen leicht dekonstruierbar sind. Alle diese Pfeifen scheinen zum einen, der Ball ist seine Hete und ihnen zu eigen. Jungs, macht den Kopf an, wenn ihr echte Männer seid, seid ihr cool mit queer, alles andere ist frei. Frau Homo, und die Zeit ist reif. Frau Homo, es ist keine Leichtigkeit. Wie kann man nur hassen, dass Menschen sich lieben? Die Normalität wünscht sich endlich Frieden. Frau Homo, und die Zeit ist reif. Frau Homo, es ist keine Leichtigkeit. Wie kann man nur hassen, dass Menschen sich lieben? Die Normalität wünscht sich endlich Frieden. Und dann höre ich sie sagen, es sei alles gut. Bruce Patrick Lindner, wo wir sind doch schwul. 2005 kam Brokeback Mountain, aber die Hartnäckigkeit lässt mich staunen. Die Idee von der Ordnung zwischen Männern und Frauen trieft zu sehr vor Tradition, um drauf länger zu bauen. Identität ist wichtig und alles, auch das eigene und das andere, bergen auch Fallen. Was glaubt man zu wissen, was sind nur Klischees? Die Stereotype bahnen sich ihren Weg. Woher wollen sie wissen, wer wann wen wie vögelt, wenn sie das alles doch so sehr ekelt? Und ganz nebenbei, es gibt auch noch Alltag und Ramadan und Chanukka oder die Weihnacht. Stellt euch vor, Schwule sind genauso nett und doof wie alle anderen auch, das ist einfach so. Alle wollen Respekt und Toleranz für sich, aber das gilt irgendwie für andere nicht. Wenn es Gott wirklich gibt, dann liebt er alle Menschen. Wenn es Gott wirklich gibt, dann sieht er keine Grenzen. Frau Homo, und die Zeit ist reif. Frau Homo, das ist keine Leichtigkeit. Wie kann man nur hassen, dass Menschen sich lieben? Die Normalität wünscht sich endlich Frieden. Frau Homo, und die Zeit ist reif. Frau Homo, das ist keine Leichtigkeit. Wie kann man nur hassen, dass Menschen sich lieben? Die Normalität wünscht sich endlich Frieden.
Erzähl mir nichts vom Papst. Der Papst ist ein deutscher homophober alter Mann und engagiert Holocaustleugner. Der Typ jagt Hexen und führt mit den Exorzismus wieder ein. Glaub nicht dem dunklen Mittelalter, Mittelfinger führt Märsch satt. Gib den Faschisten Kontra, änder dein Vokabular. Du spielst ihnen auch schon mit nur verbalem Homo hast zu, was du mal echt verliebt und dachtest, es sei große Liebe. Da gibt es gleichgeschlechtlich einfach keine Unterschiede, nur mehr Probleme. Und die Liebe nach außen zu tragen wird immer noch bezeichnet mit ein Coming-out zu haben. Ein Coming-out impliziert die Grenzüberschreitung innerhalb der Gesellschaft in einer Welt unter Zeitdruck. Das ist nicht Genesis. Vergiss Adam und Eva. Hier geht's um Eva und Ulla und auch um Adam und Peter. Das ist nicht religiös oder genetisch bedingt. Das sind der Sex und die Liebe. Lass uns von vorne beginnen. Lass uns von vorne beginnen.
Frau Homo, und die Zeit ist reif. Frau Homo, das ist keine Leichtigkeit. Wie kann man nur hassen, dass Menschen sich lieben? Die Normalität wünscht sich endlich Frieden. Frau Homo, und die Zeit ist reif. Frau Homo, das ist keine Leichtigkeit. Wie kann man nur hassen, dass Menschen sich lieben? Die Normalität wünscht sich endlich Frieden.
Vous êtes toujours sur Dégenré avec notre émission de rentrée multi-info. Alors, pour poursuivre, bah, y a pas mal de revues qui sont sorties ces derniers temps et qu'on trouve intéressantes. Y a notamment une revue qui se lance, alors qui est une revue, on pourrait dire, assez citoyenne et tout, mais qui a l'intérêt de parler de lutte de femmes. D'ailleurs, elle s'appelle, cette revue, Femmes en résistance. Et de lutte de femmes un peu partout à travers le monde, du coup, et voilà, dont on n'entend pas forcément beaucoup parler. Du coup, ça a cet intérêt-là, et puis de laisser quand même un peu de place pour développer des informations, des argumentaires, tout ça. Et du coup, donc, cette revue, elle sort son numéro 0. Donc, elle est basée à Lyon, mais elle va être diffusée nationalement. Donc, il ne faut pas hésiter à la demander en kiosque. Et donc, au niveau de l'actualité internationale, elle a notamment là un long article sur des femmes au Congo qui sont organisées pour lutter contre ce qu'on pourrait appeler le viol de guerre. Enfin, vous voyez, cette utilisation du viol comme arme. Pour frapper des populations et tout, cette réalité voilà, absolument terrible. Et déjà, donc, pour lutter contre ça et puis pour qu'il y ait une reconnaissance aussi, parce que c'est aussi des traumatismes voilà, énormes pour les femmes et que du coup parfois ça reste invisible. Et voilà, du coup il y a vraiment un besoin de solidarité et puis d'affirmer politiquement des choses autour de ça. Du coup voilà, il y a un long article sur ces femmes congolaises. Et puis il y a un autre long article sur des femmes qu'on connaît bien, parce que c'est un projet auquel aussi on participe pour certaines d'entre nous à Dégenrer, qui est la maison des femmes qui s'est créée à Saint-Martin-d'Hères, donc voilà, tout près de Grenoble. Et du coup, c'est pareil, cet article, il est... il donne la parole à différentes femmes pour savoir un petit peu pourquoi elles ont souhaité s'engager dans des luttes collectives, quel intérêt elles trouvent à se regrouper entre femmes, etc. Donc ça peut donner un peu une idée. Et puis du coup, il évoque aussi cette nécessité un peu de se regrouper. Et du coup, moi j'avais envie d'en parler aussi parce que y a une dynamique qui est un peu lancée là à travers la France de rencontres entre maisons des femmes. Alors, Maison des Femmes, c'est un sens politique, en fait, qu'on ne voit pas forcément au premier abord, mais c'est, en fait, les Maisons des Femmes, elles ont été créées dans les années 70, et il y avait clairement l'idée de revendiquer des lieux, que ce soit des lieux de lutte, des lieux d'émancipation. Du coup, c'est un peu dans cette veine-là, en se réappropriant cette histoire aussi, qu'aujourd'hui, il y a des Maisons des Femmes qui sont héritières de cette histoire-là, qui existent depuis les années 70, et puis d'autres, comme celle à Saint-Martin-d'Hères, qui sont créées. Du coup, on en a parlé plusieurs fois dans Dégenrer, hein. C'est notamment qui sont créées là après des luttes sur le logement, donc qui avait vu naître le collectif Défends-toi. Et voilà, donc il y aura des rencontres mi-novembre à Montreuil. Donc je pense qu'on vous tiendra un peu au courant de ce qui ressort de tout ça. En tout cas, donc des articles à lire donc dans Femmes en résistance. Et puis, y a une autre revue qui parle aussi un peu de cette histoire de la création de la Maison des Femmes à Saint-Martin-d'Hères et puis des luttes qu'on y mène. C'est une revue qui s'appelle La Traverse, qu'on peut trouver plutôt, qu'on trouve dans des lieux un peu alternatifs, je sais pas, type Antigone ou les bas-côtés, choses comme ça, mais qu'on trouve aussi sur Internet, sur le site des Renseignements Généreux. Et leur dernier numéro, il y a un long entretien donc avec des femmes impliquées dans ces luttes collectives. Et puis il y a un autre article aussi qui mérite, je trouve, d'être lu sur une militante qui est engagée dans différentes luttes, notamment avec des personnes migrantes, etc. Et qui parle un peu des stratégies qu'ils essayent de développer collectivement pour continuer à trouver l'énergie de lutter. Et que ça, c'est vrai que c'est aussi une problématique un peu récurrente de comment, dans cette société oppressive, les rapports de domination sont omniprésents, les rapports de classe, etc. Comment on fait pour continuer à trouver l'énergie de lutter. Et du coup, là, je trouve qu'il y a des réflexions là-dessus et des choses assez concrètes qui peuvent amener des choses. Donc, je vous conseille la lecture du dernier numéro donc de La Traverse à trouver sur le site des Renseignements Généreux.
Et alors, tu voulais aussi nous parler de Robert ? Du fils, du petit.
du petit. Ouais, c'est parce qu'on disait que c'était, pas mal aussi. Là, c'est une étude québécoise qui est sortie sur le dictionnaire, le petit Robert. Et pour le coup, là, on est du côté un peu, on va dire, des médias dominants. Et c'était intéressant pour nous de voir que, loin de la belle objectivité scientifique qu'on veut nous vendre, hein, parce que le dictionnaire, c'est un peu la référence, quoi. C'est comme si c'est les producteurs de savoir qui sont censés détenir la vérité, que ces détenteurs du savoir, ils sont complètement imbriqués dans ces systèmes de représentation et de domination. Et ils sont bien finalement le reflet de notre société hétéro-patriarcale. Et du coup, cette étude, elle montre en fait que la conception, enfin qu'il y a une conception ultra genrée qui est présentée à travers le dictionnaire. Et du coup, elle donne plein d'exemples qui sont très révélateurs. Donc ces exemples, c'est par exemple au niveau des adjectifs, où on peut constater en fait que les adjectifs dépréciatifs, finalement, ils sont beaucoup utilisés avec des prénoms féminins. Donc c'est beaucoup des exemples du type Sarah est vicieuse.
Sarah est oisive, Sarah est...
Ouais, il y en
une
a...
Une peste.
Ah oui, une peste, elle est vilaine. C'est que des choses très...
Donc... Il a fallu la punir, des trucs comme ça.
Donc ouais. Très infantilisant, très dépréciatif. Et,
Mais sur ce truc infantilisant, je crois que c'est que l'étude, elle a été menée sur le dictionnaire junior, là, qui est à destination des enfants.
Ouais.
Du coup, pour chaque mot, il y a un exemple, et les exemples, ils sont atroces, quoi.
Ouais. Oui, c'est vrai, voilà, c'est vrai que j'ai oublié de préciser que c'était pour le petit Robert junior. Mmh. Donc, c'est, en plus, voilà, c'est ça qui est bien, c'est que c'est aussi... une façon de concevoir l'éducation où dès la plus tendre enfance, on va bien conditionner les enfants à dire il y a des genres bien distincts, il y a le genre masculin et le genre féminin, et du coup ce qui est rattaché, c'est des valeurs positives ou négatives, et ça vaut le coup de boycotter tout ce savoir là qu'on veut transmettre aux enfants, parce que c'est vraiment hyper grave en termes de conditionnement et de stéréotypes.
Oui, parce que les exemples, aussi d'adjectifs pour le coup valorisants, c'est justement avec des prénoms de petits garçons du type « il est vaillant »,« il est courageux », etc. quoi. Enfin, du coup, il y a les deux
versants. Hein.
Les deux en parallèle, quoi. Donc, c'est vraiment le truc de... Ouais, c'est pas juste le reflet, en fait, de l'hétérosexisme. Ça produit très clairement, vu qu'en plus, c'est à destination, un truc soi-disant éducatif de l'hétérosexisme, quoi.
Oui, et puis il y avait des endroits aussi où il y avait deux adjectifs assez similaires. Et du coup un peu synonyme quoi, et du coup ils étaient mis l'un à côté de l'autre, Paul nanana et puis Sarah blablabla, et qu'en fait le plus négatif des deux était associé au féminin et le plus valorisant un peu comme coureur de jupons et salope quoi, enfin comme à un moment une même pratique elle est plus ou moins valorisée en fonction de qui l'a fait et tout ça,
et en fonction du genre et de la personne qui l'a fait.
Voilà
du coup
Et l'article, tu l'as trouvé où, sur Internet ?
Alors, c'est sur...
IAG, je crois, non ?
C'est sur... je crois que non, c'était la liste Effigie, alors qu'il le transmet. Du coup, j'imagine qu'ils ont un site Internet qu'on peut aller voir sur Effigie, pour voir cette étude québécoise. Et c'est vrai que j'ai l'impression que, par exemple, au Québec, il y a un peu plus de vigilance sur ces questions-là d'éducation et de transmission et de pas continuer à reproduire sans arrêt ces systèmes de domination.
Et Effigie, c'est une liste de jeunes chercheuses féministes.
Et alors ensuite, pour continuer, on voulait vous passer un morceau de musique qui est en soutien au Pussy Riot. Et du coup, on voulait un peu vous parler d'elle. C'est un groupe russe. Et il y a presque un an maintenant, je crois, elles ont fait une prière anti-Poutine dans une église. Ce qui a valu qu'elles soient arrêtées, mises en prison et jugées. Et elles se sont toutes prises 2 ans ferme de camp de travail. Et de camp d'enfermement. Et en appel, il y en a une qui a été libérée en fait, parce que elle se prend les 2 ans de camp, mais avec sursis. Du coup, pour l'instant, elle n'y va pas. Et les deux autres, elles viennent d'être transférées chacune dans 2 camps hyper éloignés de Moscou. Un camp à 500 km de Moscou et l'autre à 1400 km. Et a priori, c'est les 2 camps les plus durs en termes de conditions d'enfermement. Et du coup, voilà, un peu pour donner les nouvelles, il y a eu énormément de soutien international pour elle, quoi, autour de ce groupe. Et il y a du coup aussi un morceau de musique qui est sorti pour ça.
Ouais, donc c'est un morceau qui a été fait par Toby Vail. Donc Toby Vail, c'est l'ancienne batteuse du groupe emblématique de punk Riot Girl, Bikini Kill. Bah, qui est aussi un groupe en fait qui clairement en fait a inspiré les Pussy Riot, hein, dont elle se réclame aussi. Donc la batteuse Toby Veil a fait ce morceau pour elle, ça s'appelle Free Pussy Riot et ça réclame entre autres la destruction de toutes les prisons et la liberté pour toutes. Et on va l'écouter maintenant.
Donc on ne peut que souscrire.
Thank you.
Bonsoir, vous êtes toujours à l'écoute de Dégenré, une émission féministe pour déranger sur Radio Kaléidoscope 97 FM. Alors maintenant, on va vous parler de la ZAD. La ZAD, c'est un lieu qui, c'est une zone qui est occupée au nord de Nantes contre la construction d'un nouvel aéroport. Il y a déjà un aéroport au sud de Nantes et ils veulent en construire un nouveau. Vous en avez peut-être entendu un peu parler dans les médias dominants. Et peut-être vous avez aussi écouté l'émission de Dégenré de décembre 2010 qui est c'était une émission consacrée à ce sujet où il y avait trois personnes qui habitent sur la ZAD qui étaient venues raconter leur lutte là-bas contre l'aéroport.
Puis il faut quand même préciser que c'est le gros projet mégalo de notre
premier ministre.
Du coup, il y a vraiment des gros enjeux politiques là-dessus. Mmh. Quoi.
C'est ça, c'est que c'est un projet qui date d'une quarantaine d'années, mais qui a été beaucoup porté ces dernières années par Jean-Marc Ayrault, député maire de Nantes, maintenant premier ministre. Alors, ils ont fait pas mal de promesses au cours du temps et tout ça. Et par exemple, à un moment, ils ont commencé à dire dans les médias qu'il n'y aurait pas d'expulsion avant que tous les recours qui ont été lancés soient terminés. Mais en fait, ce n'était pas d'expulsion des personnes qui habitent là de manière légale, entre guillemets, qui avaient une maison avant le début de la lutte, en quelque sorte. Mais ça fait une semaine et un jour qu'ils ont débuté des expulsions de personnes qui squattent ou qui ont construit des cabanes ou qui habitent sur la zone occupée.
Alors
quoi.
Que tous ces gens-là, en plus, luttent ensemble. Enfin, c'est encore une manière...
De diviser ceux qui habitent là légalement et ceux qui habitent pas là. Et du coup, c'est un truc où, en réalité, ils sont tous sur la même lutte et tous solidaires les uns des autres. Et là, du coup, en plus, les expulsions, elles dérapent un peu à des moments, tout ça... En tout cas, en un peu plus d'une semaine, il y a déjà eu 13 lieux expulsés. Mais sur les 13, il y en a eu 3 de réoccupés, déjà. Et il y a eu... Et sur ceux qui ont été réoccupés, il y en a un qui a été expulsé. Et il y a eu plus de 10 bâtiments détruits. Et du coup, aussi, ils les détruisent alors qu'il y a de l'amiante. Et ils font des trucs de désamiantage, mais pas du tout aux normes. Alors du coup, il y a des voisins qui habitent à côté, il y a des jardins, et puis il y a
en train de tout contaminer.
C'est ça, il y a plein d'employés aussi qui se retrouvent à bosser un peu dans l'urgence, entourés de keufs, dans des conditions assez dégueulasses. Bon, sachant qu'hier, ils avaient déjà depuis une semaine 1200 flics pour pouvoir faire ces expulsions-là réquisitionnées. Du coup, qui tourne tout le temps, ça a déjà coûté plus de 500 000 euros, je crois, l'expulsion, en termes de moyens
de
policiers,
moyens,
compter les tractopelles. En plus, il pleut, alors ils embourbent un tractopelle, ils ramènent une grue télescopique pour sortir le tractopelle, ils embourbent la grue. Bref, et au milieu de ça, il y a des dizaines de...
Ils ont de l'argent à dépenser inutilement.
Ouais. Voilà, et donc au milieu de ça, il y a une énorme résistance qui s'est mise en place contre l'intervention policière. Il y a des manifs tout le temps pour empêcher les destructions. Il y a des barricades qui sont régulièrement construites sur les routes pour empêcher les flics de se déplacer sur la zone, qui n'est pas une zone immense, quoi. C'est 12 km sur 3, je crois. Enfin, ça dépend des endroits, mais ce n'est pas un très, très grand terrain. Du coup, il y a vraiment des tonnes de flics, il y a des hélicoptères. Enfin, c'est vraiment très, très, très contrôlé, mais il y a une résistance forte. Par exemple, le Sabot, ils ont essayé de l'expulser.
Qui est une ferme.
Un lieu collectif, le Sabot, où je crois il y a des cabanes et un jardin collectif. Je connais pas bien, mais j'ai cru comprendre ça.
Et oui, je crois qu'il y a vraiment une grosse surface de maraîchage quand même. Hein. Ils ont réussi à mettre en place...
Qui maintenant sont foutus à cause des lacrymos.
Ils ont envoyé en une soirée plus de 250 lacrymos sur l'endroit. Heureusement, je crois qu'il y avait du vent, mais quand même, quoi. Mmh. C'est un truc de malade. Et ils ont essayé d'expulser pendant plusieurs jours d'affilée, ils y sont pas arrivés. Ce qui est quand même super, quoi. Enfin voilà, et en tout cas, ils avaient prévu 2 vagues d'expulsion. Du coup, là, c'est juste le début de la première vague qui dure plus d'une semaine, mais ça risque de continuer encore longtemps. Alors, il y a des appels à solidarité décentralisée. Ils demandent à tout le monde de les soutenir. D'ailleurs, j'ai vu sur Indie Media Grenoble qu'il y a des banderoles qui ont été mises à Grenoble en soutien. Et puis, ils appellent à les rejoindre sur la zone pour venir résister avec eux. Et ils appellent aussi... dans la région, il y a des points info à Rennes tous les soirs sur ce qui s'est passé. Et il y a une manif maintenant, un soir sur deux devant la préfecture à Nantes. Du coup, la prochaine, c'est demain. Et à 19h, devant la préfecture de Nantes, du coup, un soir sur deux, il y a une manifestation. Jusqu'ici, il y en avait tous les soirs. Et il y a un soir, au début, la semaine dernière, il y avait... je sais plus, je crois plus de 1500 personnes à un rassemblement appelé en 24 heures, quoi. Enfin, c'est vraiment des...
Et puis dans toute, dans tout l'ouest de la France, hein, il y a des grosses mobilisations. On parlait de Rennes, moi je sais que des petites villes comme La Roche-sur-Yon et tout, qui sont pas réputées très contestataires, il y a eu des manifs de soutien aussi et tout.
En tout cas, pour avoir toutes les infos, il y a moyen d'aller sur leur blog qui est zad.nadir.org. Et Nadir, ça s'écrit N-A-D-I-R. Zad.nadir.org, c'est un site où du coup, ils recensent et les communiqués de presse et les flash infos de ce qui se passe, tout un peu. Et il y a des liens vers d'autres sites, le site de la CIPA qui est un site contre l'aéroport aussi, tout ça.
Et c'est vraiment des luttes qui nous semblent importantes parce qu'il y a effectivement toute l'absurdité là, de projets faramineux qui coûtent une fortune et dont on n'a pas besoin, etc. Mais il y a vraiment cette réflexion plus globale sur l'aménagement du territoire. Qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'investissement, en termes d'urbanisation, etc. Et de rapport à la technologie. Enfin, il y a vraiment, voilà, ça vaut le coup d'aller voir le site aussi pour réfléchir à tout ça.
En tout cas, on a trouvé un texte à ce sujet-là sur le blog de la Petite Murène, qui est le blog d'une féministe trans. Et c'est un texte qui parle justement de la manière de lutter sur la ZAD et qu'on trouvait assez intéressant. Alors, on peut vous le lire. « Je ne veux pas partir » ne signifie « je ne partirai pas ».
Ne signifie pas « je ne partirai pas ».
Pardon, je recommence.
Ah oui, ça fait un peu contresens.
Alors, « je ne veux pas partir » ne signifie pas « je ne partirai pas ».
En fait, il se peut même que je m'enfuis en courant, quand ils viendront me chercher, voire un peu avant. La fuite n'a pas grand-chose à voir avec le fait d'être lâche ou courageux. C'est de l'autodéfense élémentaire.
Il n'y a ni honte ni fierté à mettre là-dedans, mais un rapport stratégique et politique à évaluer. Je ne lutte pas pour produire ni des martyrs, ni des individus brisés parce qu'ils ou elles auront pris de face la lame de fond de la répression. Je refuse de participer à une culture de lutte, de guerriers virils, qui n'ont peur de rien, où l'aveu de faiblesse est tabou.
Je veux une lutte de tapettes qui peuvent assumer de ne pas se sentir fort. Répéter des formules incantatoires selon lesquelles rien ne nous fera plier et que nous ne partirons pas, font autant pour me donner de la force qu'un placebo agit réellement pour me soigner. Ça marche peut-être, pour celles, ceux qui veulent bien y croire. Pour les autres, le plus probable, c'est qu'elles ne fassent que les culpabiliser.
Il ne s'agit pas tant d'affirmer haut et fort que nous ne partirons pas, que nous ne plierons pas, mais bien de ne plus s'interroger sur les conditions qui permettent de tenir. Mais bien plus de s'interroger sur les conditions qui permettent de tenir, de ne pas en ressortir écrasé. Pour certains et certaines d'entre nous, plier un peu, c'est peut-être la condition pour ne pas briser.
Bah, du coup, ouais, je sais pas, on trouvait ça intéressant de lire ce texte. Bah, aussi, je trouve sur qu'est-ce qu'il pose en tant que féministe, où j'ai l'impression qu'un des trucs forts dans le mouvement féministe, c'est aussi de réfléchir pas aux luttes que en termes de, par exemple... comment dire, par exemple, d'ennemis extérieurs, là, à l'extérieur de nous, mais de réfléchir aussi sur comment ça se passe à l'intérieur des groupes, et entre autres, par exemple, à l'intérieur des groupes de militants, militantes, comment ça se passe à l'intérieur des luttes, au rapport de pouvoir interne entre nous, à ces pressions, à toutes, en fait, ces histoires aussi de rapports... Ben, potentiellement guerrier, viriliste à la lutte, de comment en fait les rapports de domination homme-femme, mais aussi d'autres rapports de domination sont pris en compte à l'intérieur justement même de ces luttes, et pas que en termes de
résultats contre un système ou quoi. Ouais.
Et on voulait faire un petit morceau, ou vous voulez rajouter un truc là-dessus?
On voulait faire le lien peut-être sur ce qui se passe aussi à Grenoble, parce que... Parce que voilà, il y a aussi plein de luttes sur des questions de squat à Grenoble.
C'est ça, il y a des expulsions sur la ZAD à Notre-Dame-des-Landes, mais il y a aussi beaucoup d'expulsions à Grenoble. Et en fait, c'est aussi une période où on est juste avant la trêve hivernale. Et par exemple, il y a aussi énormément d'expulsions de personnes locataires, parce qu'en fait, ça ne marche pas pour les squats de ne pas être expulsé pendant l'hiver. Mais pour les personnes...
Enfin, ça dépend, ça peut marcher, mais pas de manière automatique.
Voilà, c'est ça.
Non, mais je trouve ça important de ne pas dire que ça ne marche pas à tous les cas, parce que c'est quand même ce qu'on essaie de nous faire croire, alors que ça peut aussi fonctionner pour les squats.
C'est toujours des interprétations des lois qui on interprète plutôt en faveur des dominants,
oui, des propriétaires.
En tout cas, il y a les personnes qui ont eu ou qui ont un bail et qui sont expulsables de leur logement, quelle que soit la raison pour laquelle ils sont expulsables, peuvent bénéficier de la trêve d'hiver. Et le problème, c'est que la trêve d'hiver, en fonction des endroits, elle commence au 1er novembre, là. Et ce qui fait qu'à cette période, septembre-octobre, il y a des tonnes d'expulsions, vraiment. C'est un moment où les propriétaires se dépêchent d'expulser avant le début de la trêve. Et bon, déjà, il y a ça, mais en plus, il y a en ce moment plein d'expulsions à Grenoble. Alors, je vous ai préparé un petit récapitulatif des expulsions de ces derniers mois. Vous verrez, ça va être corsé. Alors, le 24 septembre, il y avait eu l'expulsion du 22 rue des Alpes, un squat où habitaient des demandeurs d'asile. Et qui, du coup, qui était regroupé avec des militants pour ouvrir des lieux, on en parlera juste après, sous le nom du réseau du 22 rue des Alpes. Alors, ce réseau avait ouvert un autre squat le 21 septembre au 24 rue Ampère, un immense lieu appartenant à la mairie qui avait été squatté pendant 15 ans par des artistes et ça s'appelait le Brise-Glace. Et alors, le lieu a été du coup resquatté le 21 septembre. Le squat a reçu énormément de soutien de la part de plein de gens. Il a été rendu visible le 24 septembre et expulsé le 25 septembre avec une personne mise en garde à vue et avec un bon dispositif policier. Mais ils ont mis quand même beaucoup de temps à rentrer, une bonne heure et demie à rentrer dans le lieu qui était bien barricadé. Alors, suite à cette expulsion, le 1er octobre, le réseau du 22 des Alpes a réouvert un nouveau lieu au Crous du village olympique. Du coup, dans la résidence universitaire du village olympique, il y a 4 bâtiments vides sur 7. Il y en a un qui est juste partiellement vide, il n'y a que le rez-de-chaussée qui est occupé, tout le reste est vide. Du coup, le 1er octobre, il y a un de ces immeubles qui a été occupé. Il a été rendu visible au bout de 4-5 jours et il y a un procès qui est maintenant prévu pour le 31 octobre et il permet de loger du coup de nombreuses personnes demandeuses d'asile qui sont en galère.
Donc il y a vraiment besoin de soutien là, pour éviter que les pouvoirs publics puissent expulser comme ça.
Voilà, exactement. Ensuite, le 15 octobre, il y a eu 2 lieux d'expulsés qui étaient habités par des Roms, un lieu à La Tronche et un lieu à Saint-Martin-d'Hères. Ensuite, il y a eu l'expulsion d'une maison qui était occupée depuis une semaine et demie dans le quartier de Saint-Bruno, rue Abbé Grégoire. Et puis face à tout ça, il y a quand même beaucoup de luttes qui se mettent en place sur les questions du logement. Par exemple, à la Villeneuve, il y a eu une manif contre la destruction de la montée 50, parce qu'ils veulent détruire un bout de Grenoble dans ce truc d'aménagement du territoire, en fait. Et il y a plein de gens qui s'y opposent aussi dans ces questions de lutte pour le logement. Et sinon, il y a eu un appel qui est sorti après une rencontre qu'il y a eu à Toulouse. Je peux vous le lire vite fait parce que c'est assez court. Il dit « Cette année, de nombreux collectifs à travers la France ont lutté contre toutes les formes de misère. Enfants à la rue, mal logés, futurs expulsés, travailleurs précarisés, sans papier. Et pour répondre de manière autonome à leurs besoins de logement, de nourriture, de liberté. À force de recevoir des échos les uns des autres, certains ont décidé de se rencontrer pour se coordonner du 31 au 2 août. Du 31 août au 2 septembre à Toulouse, dans les restes du centre social autogéré expulsé et dévasté par l'État quelques jours plus tôt. Les participants se sont retrouvés dans le but d'échanger des outils et des savoirs, de débattre, de se renforcer. Partant du constat que toutes les formes de misère sont organisées politiquement, que les premiers concernés doivent s'organiser par elles et eux-mêmes, que l'État ne fait pas partie de la solution mais du problème, les participants appellent à continuer à coordonner les collectifs et les mouvements concernés à travers de nouvelles rencontres, un réseau d'informations et d'actions, et un week-end d'actions simultanées partout en France contre toutes les formes d'expulsion entre le 13 et le 15 octobre 2012. Et du coup, on a vu qu'à Grenoble, il y a eu 2 actions en lien avec cet appel. Alors, il y en a un qui était dans les créneaux, qui était le... Je sais plus le camp, j'ai plus la date...
Mi-octobre, en gros.
Ouais, c'est ça. Il y a eu une action où il y a eu beaucoup de banderoles et de tags, et des banderoles qui ont été mises sur des maisons qui avaient été expulsées, et des tags un peu partout dans la ville. Et puis, il y a eu, c'était ce week-end, il y a eu une action fantôme. Et où en fait, c'est il y a des affiches qui ont été collées sur des maisons où des Roms avaient été expulsés. Et des fantômes dessinés, du coup c'est le contour de corps, je crois, qui ont été dessinés sur des maisons expulsées. Et puis avec sur une des affiches, la fin du texte, ça disait « Ces fantômes de la misère reviendront aux fenêtres tant que nous n'aurons pas compris que le racisme n'est pas une solution et que nous ne nous serons pas attaqués aux causes de la pauvreté ». Voilà, un peu, c'était pour visibiliser toutes les expulsions et tous les gens qui se font jeter à la rue et dont après on n'en entend plus parler et qui n'ont aucune préoccupation de ce qu'ils deviennent. Et qui me fait d'ailleurs penser à une action de la Fondation Abbé Pierre aujourd'hui ou hier, qui a mis plein de meubles sur la place devant le ministère de la Justice, enfin devant je ne sais plus quel ministère, en disant en fait on trouve plus facilement des abris pour les meubles qu'il y a dans les squats que pour les gens qui y habitent.
Ouais, en tout cas, c'est clair que la situation, que ce soit pour des personnes migrantes ou pour les classes précaires en général, la situation du logement, elle est vraiment terrible. Et du coup, ouais, c'est super important de faire des liens entre toutes ces catégories de populations précaires, stigmatisées ou quoi, pour lutter pour un accès. On dit toujours pour un accès digne, mais aussi un accès choisi au mode de logement qui convienne aux gens, quoi.
Oui, et aussi arrêter de demander de l'hébergement de personnes et demander des logements, parce qu'à un moment, l'hébergement, c'est des nuits d'hôtel ou quelques heures dans une piole pourrie, mais en fait, ou quelques jours, mais en fait, personne n'a besoin d'un hébergement. En fait, ce qu'il faut, c'est un logement, un endroit où on peut construire
une vie,
quoi.
Ouais. Voilà.
On va faire une pause musicale.
Ah bah oui, maintenant.
On va donc écouter le morceau I'm So Beautiful de Divine, qui est entre autres une chanteuse, actrice trans.
Ain't nobody better than me. Can't you see? Look at me.
Ouais, un peu d'énergie et de défoulement dans ce monde de sales connards quand même, il faut bien le dire. Et alors, bah, voilà, tiens, d'ailleurs, dans la série Les Connards, nous avons donc Éric Raoult, donc cet ex-ministre, qui doit être jugé là, le 30 novembre pour des violences conjugales donc contre sa femme. Et voilà, du coup, c'était voilà, juste un petit coup de gueule pour dire voilà, que le traitement médiatique de ça, il a été... Voilà, comme d'habitude, assez affreux. Alors cette semaine, là, je lisais une petite brève où Monsieur Raoult se plaignait parce qu'il trouvait pas de travail et qu'il était stigmatisé à cause de ce procès. Et du coup, les journalistes avaient l'air un peu de s'émouvoir en disant qu'il était au bord des larmes, etc. Donc voilà. Donc
petit renversement de situation. Alors c'est lui qui souffre de la situation, alors que juste il a frappé une personne et qu'il a tenu des propos vraiment atroces à ce sujet-là, quoi, devant les médias, enfin vraiment des trucs horribles, dégueulasses.
Et c'est en fait ces propos, ils ont été largement repris par les médias sans vraiment de commentaires, donc ce qui rendait un peu comme légitime ces propos. Donc oui, c'est ça, hein, je le dis là, mais parce que nous justement on a envie de le commenter. Donc il disait dire à sa femme tu t'habilles comme une salope, ce n'est pas une violence conjugale. Après avoir reconnu qu'il l'avait bousculé, etc., et qu'en plus il lui disait ça, voilà, mais que ça, c'était voilà, que c'était pas une violence conjugale. Et comme il n'y a aucun commentaire dans les médias, et ben, c'est comme si quelque part on lui donnait une légitimité, on trouvait ça normal en fait comme attitude. Du coup, il y a vraiment voilà une complète
banalisation.
Banalisation, c'est ça, des violences conjugales, et puis. Finalement, le fait que ce soit quelqu'un qui a une position sociale très élevée, ça fait que c'est, oui, finalement, c'est banal, ça arrive à tout le monde, même aux gens bien, etc. Et les médias, ils donnent aucun élément sur les réalités sociales que sont les violences conjugales, qui sont donc gravissimes et qui sont ultra répandues en France. Et du coup, voilà, on avait envie de s'insurger un peu contre ça.
Oui, puis alors c'est vraiment du foutage de gueule parce que là, du coup, il va pleurer qu'il va plus trouver de travail. Enfin, ce qui de la part d'un ex-ministre, bon, déjà, t'es là, genre, mais en fait, de qui se fout-on, quoi. Sachant qu'en fait, il a aussi quand même fait des déclarations pour dire « Ah, mais c'est super, plus les médias en parlent, plus en fait, je pourrais gagner de l'argent au procès en diffamation qu'il va faire, du coup, par rapport à son... Enfin, sa femme ou ex-femme, je ne sais pas la situation actuelle, quoi, mais en gros, où il chiffrait en fait, le nombre de thunes qui pourraient se faire avec un procès en diffamation. Quoi.
Et on voit du coup comment vraiment il y a des gens qui sont intouchables. Quoi. Mmh. Et où c'est terrible parce que quand même les chiffres ils sont assez clairs que les violences conjugales elles existent dans toutes les classes sociales, dans tous les milieux, partout en France, et à peu près dans les mêmes proportions. Quoi. Et aussi, on peut donner des chiffres sur la gravité de la situation. C'est que je crois qu'il y a une femme qui meurt tous les deux jours, entre deux et trois jours, sous les coups de son conjoint. Mmh. Et en fait, ça mène vraiment loin, les violences conjugales. Et c'est pas, y a pas à dire c'est à tel ou tel niveau. Enfin, en fait, à un moment, des violences conjugales, c'est des violences conjugales. C'est des violences qui sont patriarcales et sexistes et qui s'incluent dans un système de domination et qu'elles sont condamnables quelles qu'elles soient et qu'il faut lutter contre. Et qu'à un moment, eh ben, les médias dominants, et à plein de moments, eh ben, ils vont reprendre des trucs pour stigmatiser des gens et pouvoir bien fabriquer du racisme ou de la haine des classes populaires. Et minimiser dans d'autres situations. Quoi.
Ouais, tout à fait. Et du coup, bah, on voulait le mettre un peu justement en parallèle avec... dans le sens où justement le traitement médiatique, il est très... Il est très différent en fait, où c'est... Enfin, il me semble, mais bon, je ne sais pas si c'est la façon dont on voulait l'amener. Mais en tout cas, voilà, sur d'autres choses dont on a beaucoup entendu parler dans les médias récemment, qui était la question du procès pour les viols collectifs.
Oui, disons qu'en fait, moi, je voulais surtout parler en fait, par rapport au jugement de Créteil, qui est donc un jugement de viol collectif à une banalisation, enfin vraiment du viol, et vraiment aussi un message en fait, qui, je trouve, amené aux violeurs en général de « mais en fait, il n'y a pas de problème, quoi. En France, vous pouvez violer, il ne se passera rien », quoi, qui est quand même le message qu'on peut tirer de ce procès. Alors, par rapport au fait... déjà, juste le terme... alors, pour nous, c'est vraiment important de parler de viol collectif, hein, parce que c'est de ce dont il s'agit. Alors que dans les médias, quand même, le terme qui est le plus employé, ça va être celui de tournante. Ce qui est quand même vraiment grave, parce que tournante, je trouve que ça participe vraiment à un truc de banalisation justement du viol, en fait, qui fait qu'on ne dit pas le mot et qui est quand même hyper grave et qui est en fait un mot qui en fait ne correspond pas du coup à celui que mettraient les victimes ou survivantes de viol dessus. Qu'après, le terme tournante, depuis 5-10 ans, il a aussi été appliqué pour parler de viols collectifs particuliers, qui sont plus les viols collectifs, on va dire, dans des banlieues populaires en France. Et la manière dont il a été employé par les médias, c'est vraiment aussi faire comme si c'était un nouveau phénomène, en fait, les viols collectifs, qui seraient spécifiques, par exemple, à la réalité... des banlieues populaires et puis qui alimentent du coup un discours raciste, un discours vraiment craignos là-dessus, sans là en fait parler de par exemple le discours spécifique sur le viol, quoi, mais dans la manière dont a été amené ce mot, alors que le viol collectif c'est une réalité qui existe pareil dans tout milieu, classe sociale, etc., qui n'est pas limitée à des milieux ou quartiers particuliers. Donc déjà, pour nous, c'est important de parler de viol collectif. Au niveau du résultat du jugement de Créteil, ça a quand même été l'acquittement de 10 hommes poursuivis, donc de 10 violeurs. Et 4 autres ont eu des peines qui allaient de 3 ans avec sursis à 1 an de prison. Donc quand même pour des viols collectifs commis sur 2 mineurs. Et ce, de manière répétitive, sur une longue durée, etc. Alors, ça nous paraissait aussi important de parler de ça, parce que si on peut avoir une...
une critique acerbe de la justice.
Oui, de la justice ou de la prison, des peines d'enfermement, etc. En fait, je trouve ça quand même vraiment important de voir comment, le jugement, les peines, elles sont vraiment dérisoires, quoi, par rapport aux faits sur comment sont jugées d'autres affaires. C'est-à-dire qu'en fait, il vaut mieux commettre un viol collectif en France qu'aller voler dans un supermarché, en fait, si on compare un certain nombre de jugements.
Oui, ou de fumer du shit, à la propriété privée, par exemple. Ça, c'est grave, alors que violer une femme, ça, c'est... Ça semble moins, finalement, au regard de la justice, quoi.
Oui, là, il y a quand même 10 acquittements ou des peines vraiment dérisoires par rapport, en fait, aux faits encourus et sur, on va dire, l'échelle de comment se passe la justice en France, quoi. Quoi que ce soit qu'on en pense. Et du coup, ça envoie aussi vraiment un message, mais clairement, en fait, portez pas plainte, parce que qu'est-ce qui se passe pendant les procès ? C'est vous allez vous retrouver, votre parole va être décrédibilisée, vous allez être stigmatisé, on va vous dire que vous êtes folle, on va fouiller votre vie pour dire que vous l'avez bien cherché, etc. On va dire que vous mentez, enfin, toute la honte va être amenée du coup sur les femmes qu'on. Vécu ce viol.
Et vous allez devoir répéter 10 000 fois votre histoire à des gens qui sont froids, durs, mesquins, tout ce qu'on veut.
Pour que le jugement, en fait, risque d'être un acquittement ou quelque chose de ridicule, parce que de toute façon, on considère que c'est pas important, en fait.
Et qu'il y aura du coup même pas de reconnaissance du vécu des femmes dans cette situation-là, quoi.
Oui, parce que dans notre émission justement qu'on a fait sur le rapport à la justice, tout ça, on défendait un peu cette idée que des fois, ça pouvait être pour la personne qui a vécu des violences ou quoi, ça pouvait être un choix stratégique que de faire appel à la justice ou quoi. Et on voit que même si c'est un choix de la personne à des moments pour se renforcer en essayant d'obtenir une certaine reconnaissance ou quoi, on peut absolument pas avoir confiance en ce système judiciaire, quoi.
Et bah, du coup, pour vous donner un peu des chiffres là-dessus, bah, alors, selon différentes enquêtes en France, on estime qu'il y aurait 75 000 femmes violées par an, sachant que ces chiffres ils sont probablement sous-évalués. Bah, par rapport à comment sont menées les enquêtes et aussi aux difficultés en fait de parole en fait sur le viol, et qu'il y a moins de 8% des femmes qui portent plainte, ce qui du coup est vraiment un chiffre super ben, ridicule, et ce qui aboutit à ben, 2% des violeurs qui sont condamnés. Donc bah, c'est sûr qu'en fait quand on voit par exemple le jugement de Créteil, bah oui c'est sûr ça risque pas de changer les trucs comme ça, parce qu'on comprend pourquoi les femmes ne portent pas plainte bah, dans ce genre de contexte en fait, où, ouais, où justement bah, toute la honte elle est amenée sur les victimes, sur les survivantes de viol et pas sur les violeurs, que c'est leur parole qui est mise en doute, enfin etc. Tout le processus en fait qui se passe, bah, que ce soit en fait en général bah, dans l'entourage proche, hein, sachant que voilà, on le redit, la majorité des viols sont commis par des personnes connues de la victime, hein, donc des personnes avec un minimum de liens, que ça soit dans le cadre familial, de voisinage, du travail, du couple, etc. Et ben, très souvent, en fait, la réaction des proches, si du coup, ben, les femmes ont le courage de parler du viol, ça va être de la remise en cause, de la décrédibilisation, etc. Et que c'est compliqué d'avoir du soutien là-dedans, quoi, que c'est encore vraiment hyper tabou et stigmatisé, et qui fait que, qu'en fait, c'est les femmes qui sont culpabilisées là-dedans, quoi.
Et aussi, où, comment... Moi, j'ai l'impression que si déjà un organisme extérieur censé être neutre ou je sais pas quoi, il reconnaît pas les violences, comment c'est possible de les avoir déjà aussi dans un cadre plus proche ? C'est ça, en fait, qui est fou, c'est que même les organismes voilà, extérieurs qui connaissent pas ni la victime, ni l'agresseur, et ben en fait, reconnaissent pas ce qui s'est passé. Et alors, il y a déjà des difficultés à le faire reconnaître par l'entourage. Enfin, en fait, c'est un truc de fou, quoi.
Donc suite à ça, il y a aussi eu vraiment beaucoup de réactions de bah, différents mouvements collectifs féministes. Il y a entre autres eu des manifestations, il y en a eu une à Grenoble le 16 octobre dernier. Et enfin, il y a encore une mobilisation, ben voilà, qui continue là-dessus, parce que ce jugement, voilà, est vraiment emblématique de comment est traité le viol dans, enfin voilà, en France. Peut-être on va pas s'étendre plus sur le sujet pour le soir, mais en tout cas on peut vous renvoyer aussi à une émission qu'on a consacrée entre autres à ce sujet-là l'année dernière, qui était autour de l'affaire DSK à partir du livre Un troussage de domestique, et qui parlait justement en fait du traitement entre autres médiatique mais aussi politique du viol, sur comment on en parle, selon c'est qui justement les personnes accusées, c'est quoi leurs différentes classes sociales d'appartenance, etc. Donc on peut vous renvoyer à cette émission.
Et puis à l'émission Féminisme et Justice, qui parle aussi de ces sujets-là un peu. Avec un autre axe, quoi, mais qui parle du sujet, qui est aussi une émission qui date de 2012.
Du coup, on va se faire une petite pause musicale avant la dernière partie de notre émission.
Ouais, alors on va écouter un morceau ben, en rapport avec le sujet, qui s'appelle Patriarchal Laws, donc loi patriarcale, bah, qui dénonce en fait les violences sexistes en général, donc aussi le viol, et qui est un morceau de l'excellent groupe de punk féministe brésilien Dominatrix.
Hey!
Et donc voilà, plein de débats au sein de Dégenrés sur, bah, sur des questions, hein, qui, de, des questions de fond, ouais, sur, sur ces questions de rapport à la justice, de rapport de classe, etc. Et pour terminer notre émission, avant de faire un petit agenda des prochains rendez-vous sur des questions féministes, etc., sur Grenoble, on voulait vous parler d'une revue féministe aussi qu'on aime beaucoup, qui est donc la revue Tumult, qui en est à son 6e numéro. Donc son 6e numéro, là, vient de sortir en septembre 2012. Et bah, il consacre justement un article au viol. Et,
enfin, il y en a, ouais, un sur justement la, oui, le, ouais, livre Un troussage de domestique et un plus sur...
Ouais, du coup, il y en a un qui est plus, voilà, un commentaire autour du livre, et puis il y en a un qui est plus une réflexion finalement de fond à partir d'un témoignage. Et c'est ce qu'on trouve, enfin, moi, c'est ce que je trouve souvent intéressant dans cette revue, c'est vraiment d'allier en fait la parole, là, donc la parole des premières personnes concernées par des rapports de domination, par des violences, etc., d'allier cette parole à une réflexion politique globale. Et du coup, c'est le cas de l'article qu'elle consacre, qui s'appelle « Dire non n'est jamais anodin. Viol et domination sexuelle ordinaire dans les relations hétérosexuelles ». Voilà, donc vous l'aurez compris, c'est un peu un récit donc d'une femme qui a vécu dans des relations hétérosexuelles plusieurs situations de viol, et qui mène une analyse un peu globale autour de ça. Et voilà, donc je crois qu'on comprend bien à travers ce récit, on comprend bien justement les mécanismes de sociaux qui se jouent, qui font que on se sent pas forcément légitime dans notre vécu, qui font qu'on n'a pas forcément de soutien. Voilà, donc on vous invite à lire cet article.
Et l'article aussi sur la non-violence, il est trop bien. Il y a un des premiers articles.
Oui, je me rappelle. Oui.
Un des premiers articles plus de la revue, là, de ce numéro-là, du numéro 6, c'est un article sur la non-violence et comment. Enfin, et les stratégies de non-violence dans des luttes politiques. Et du coup, ça montre que, en fait, la non-violence, ça sert aussi le pouvoir, dans le sens où. Où en fait c'est le système politique patriarcal, économique, tout ça qui sont violents, et que les réactions qu'on y fait, et ben souvent quand on lutte ou quand on réagit aux violences de l'État, et ben souvent on nous dit ah vous êtes violent, c'est pas bien, il faut utiliser la non-violence, sans regarder que la première violence en fait c'est des violences qui sont banalisées et acceptées, et qu'à un moment refuser de réagir violemment à ça, et ben c'est un peu se mettre en retrait en fait, et pas pas s'opposer complètement aux choses, quoi.
Et par rapport au viol, il y a aussi un article qui parle plus de pas mal autour de le traitement de l'affaire de Roman Polanski et de l'autre là de WikiLeaks, je me rappelle plus de son nom.
Julian Assange.
Ouais, c'est ça. Des fois, faut oublier les noms des connards. Mmh. Mais et du coup, de la différence dont sont traitées, notamment médiatiquement, les histoires selon la place sociale, les catégories sociales dont appartiennent les violeurs, quoi.
Et ouais. Et alors moi, j'avais envie de vous parler encore d'un autre article parce qu'il rejoint bien aussi les questions qu'on a soulevées tout au long de cette émission sur la question des stratégies de lutte, et notamment dans nos luttes féministes. Et puis ça fait écho, voilà, aussi, c'est parce que c'est un long article qui est consacré lui aussi à la Maison des Femmes, du coup à Saint-Martin-d'Hères. Il faut croire que c'est très tendance. Non, mais je crois que c'est juste que c'est parce que c'est des expériences fortes collectives qui ont lieu, et que que ça fait du bien un peu de sentir qu'il y a un renforcement des luttes et tout ça. Et mais là, la spécificité d'Antimult, c'est qu'il est, c'est vraiment une analyse de l'intérieur, donc d'une personne qui participe à ça et qui se pose plein de questions justement sur comment on peut se renforcer en tant que meuf dans nos luttes collectives, qu'est-ce qui à des moments va nous diviser, quelles sont les questions qui sont complexes à gérer, notamment les questions de classe, les questions de classe sociale, les questions de néocolonialisme, etc. Et du coup, moi, j'avais envie de vous lire un extrait qui justement met à jour un questionnement sur au niveau donc des stratégies de lutte sur la question de la radicalité, parce que c'est pareil en fait, on est je crois que on a vraiment des fois envie de faire exploser un peu cette société, ces systèmes de domination, et que pour ça on a envie de remonter à la racine des problèmes, donc d'être très radical, et que en même temps il y a des fois des stratégies qui peuvent sembler plus réformistes, etc., qui peuvent aider concrètement au quotidien des personnes qui vivent des discriminations, des violences, etc. Et que du coup, c'est comment on allie un peu ces formes de lutte. Et donc, ça me paraît assez crucial de se poser ces questions-là. Du coup, je voulais vous lire un extrait autour de cette question de la radicalité. La radicalité, je ne sais plus trop ce que c'est. L'idée de s'opposer frontalement au système, de refuser les compromis réformistes et le simple aménagement du moins pire. Quand nous voulons tout, que nous sommes fiers et fortes et en colère, et que seule la lutte paye, je trouve cette radicalité. Ces slogans me sont familiers. Ils sont dans le top 10 du bréviaire de l'anarcha-féministe. Mais derrière les slogans se dessinent des objectifs beaucoup plus pragmatiques. Obtenir des papiers pour Messoum, avant de s'attaquer au problème de son appartement insalubre. Acquérir un meilleur logement pour Maïssa, Eline, Fabinta, Tchouban, Denise et Laurence, empêcher l'expulsion de Nathalie et aider Yasmina à rester chez elle avec son plus grand fils, contre l'avis du reste de sa famille. Et pour toutes, pouvoir simplement vivre tranquillement. La radicalité, est-ce prendre les choses à la racine, penser les bases du système, ou bien partir de nous, de ce qui nous préoccupe intimement? Sans doute les deux. Mais la difficulté, c'est que Maïssa attend depuis plus de 20 ans que la santé de Meissoum se dégrade vraiment vite, que Florence, toujours expulsable, a accouché la semaine dernière, que Tchouban vit dans un deux pièces sans chauffage avec son mari et 7 enfants, et que les 3 squatteuses parmi nous ont été expulsées la semaine dernière, sans parler de toutes les autres. On est sur le point de se battre pour décréter quel est le cas le plus prioritaire, et puis on se raisonne, on se dit qu'on va y aller pas à pas, et cas par cas, et qu'on va se tenir forte, ensemble. Cette semaine, Nala est plus remontée que jamais. Le mari de ma voisine, il est arrivé dans le bureau de l'élu et il a fracassé l'ordinateur par terre. Eh ben, il l'a eu direct, son appartement. Moi, je vais faire pareil. Je vais l'aborder gentiment, j'aurai l'air calme et poli, et puis au premier mot de travers, j'explose son ordi et je m'enchaîne au radiateur. Je sens la chaleur sur mes joues. Je ressens sa rage, mais je raisonne. Fais gaffe à toi, ils t'ont dans le collimateur par rapport à la garde des enfants. Peut-être qu'il faut réfléchir à une action un peu plus... Impression de calmer le jeu. Quelques semaines plus tard, c'est Osnia et Messoum qui explosent. Elles n'en peuvent plus. Elles ont décidé de ne plus payer leur loyer. Même enthousiasme de sentir que les choses décollent, qu'on ne se sent plus soumise à rien. Je brûle de leur raconter ce que j'ai lu sur les grèves de loyer dans les années 70. Mais mon discours est tout autre. Attends, faut s'organiser d'abord. Si t'arrêtes de payer toute seule, tu vas t'en prendre plein la tronche. Faut qu'on monte une caisse de grève, faut que plusieurs familles s'y mettent en même temps. Moi qui me pensais plus radicale et déterminée que beaucoup, je me découvre artisane de l'apaisement. Je mesure que leur désespoir est sans commune mesure avec le mien. Je sais que je n'assumerai pas avec elles jusqu'au bout, que je ne m'installerai pas 24 heures sur 24 dans le quartier pour suivre leur colère. Je tempère, je modère, c'est moi la tiède. Voilà en tout cas un peu des bases de réflexion sur ces stratégies et qu'à mon avis il y a encore pas mal de matière à avoir.
Bah, comme on arrive à la fin de l'émission, on va devoir passer à l'agenda.
Youhou.
Demain, jeudi 25 à 18h, à la Maison des Associations à Grenoble, il y a une réunion publique des féministes européennes contre l'austérité.
Ouais, alors c'est un peu, c'est des personnes du CADTM, donc du Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, mais aussi plein d'autres collectifs, donc des collectifs féministes, etc., sur Grenoble et Aglo qui appellent.
Beaucoup de collectifs féministes.
Voilà. et qui, ouais, c'est ça, qui du coup ont rencontré des femmes dans différents pays d'Europe, donc Europe de l'Est, Europe du Sud, etc. Et ça me semblait important parce que là, ça met en avant le côté européen, que c'est pas pour sauver l'Europe et puis que le reste du monde crève. Hein. Mais je crois que c'est plus pour dire que déjà au sein de l'Europe, il y a plein d'inégalités sociales et qu'il y a vraiment là des pays qui entrent dans une misère, etc., et que les femmes, du coup, sont doublement victimes de cette précarité et que, du coup, ça vaut le coup de s'organiser aussi à ce niveau-là.
Sinon, le vendredi 26 à Antigone, donc 22 rue des Violettes, il y aura une soirée sur la contraception masculine qui commence à 20h.
Donc pareil, ça nous semble ça nous semble important que parce que c'est organisé du coup par un groupe d'hommes et dans une perspective de antisexiste, etc. Et du coup, ça nous semble important que les hommes ils prennent en main ces questions de contraception et qu'ils s'autogèrent et que ce soit pas une question qui repose sur les femmes.
Oui, qu'on arrête d'entendre des gars dire « Oh, elle m'a fait un enfant dans le dos », alors qu'en fait, s'il ne voulait pas d'enfant, il avait qu'à se démerder pour ne pas être fécond ou pour se protéger ou un truc du genre.
Oui, puis je pense qu'il y a toutes ces histoires de prise en charge et de l'implication des hommes et aussi les enjeux politiques de pourquoi en fait, la contraception masculine précisément n'est pas plus développée. En fait.
Parce que vous pourrez découvrir dans cette soirée qu'il y a des moyens de contraception masculins et que c'est juste qu'on n'en parle pas, qu'il n'y a pas de moyens qui ont été mis, etc.
Sinon, le samedi 24 novembre à 14h, il y aura un rassemblement devant le centre IVG de l'hôpital La Tronche à Grenoble. Du coup, une manifestation pour le droit à disposer de son corps et contre toutes les violences faites aux femmes. Donc aussi pour la défense du droit à l'IVG, libre et gratuit, etc. Mais dans le cadre aussi du 25 novembre, qui est la journée mondiale contre les violences faites aux femmes.
Et peut-être on peut aussi dire que souvent il y a beaucoup de fachos qui manifestent contre le droit à l'IVG. Et en fait, ils font pas que ça, ils frappent aussi, ils font pas mal de violences racistes et tout ça. Et la semaine dernière, il y a aussi des fachos qui ont tapé des personnes... ouvertement communiste, et il y a un rassemblement mardi prochain en solidarité à ces personnes-là et contre le fascisme, et c'est, je crois, c'est mardi à 18h. Je ne sais pas exactement où, mais ça doit être visible sur Internet.
Ça doit pouvoir se trouver.
Et sinon, on voulait vous redire la reprise de la bibliothèque féministe, donc tous les lundis à la BAF, donc le centre social autogéré, qui se trouve aux deux chemins des Alpins, donc croisement Allier-Stalingrad, avec une ouverture de 16h à 20h, le premier lundi du mois en mixité, ouvert à tous et à toutes, et les trois lundis suivants entre Meuf, Gwyn, Trans.
Et lundi prochain, le 29, donc il y aura l'écoute collective de cette émission, mais aussi des lectures collectives durant la permanence.
Voilà, donc c'est la reprise de la bibliothèque, mais aussi des écoutes collectives de Dégenrer les lundis dans le cadre de la bibliothèque. Eh bien, on va devoir vous quitter... pour ce soir.
Mais avant, peut-être, on a parlé plusieurs fois d'autres émissions qui avaient déjà eu lieu à Dégenrer, que vous pouvez réécouter en lien à des trucs qu'on parlait, et du coup, elles sont toutes téléchargeables sur www.radiorageuse.net.
En tout cas, vous l'aurez compris, la lutte continue.
Et oui.
Mais pour... du coup, la... bref, on va écouter un morceau de Cumbia Queers pour amener un peu de cumbia punk, car c'est le nom du morceau, et un peu de fun dans ces luttes qui ne le sont pas toujours. Donc Cumbia Queers, c'est un groupe argentin qui fait de l'excellente cumbia.
Bonsoir.
À bientôt, bonsoir.
Cumbia, yo digo, muy digo queer si tú dices cumbia. Yo digo queer si tú dices cumbia. Yo digo cumbia queer. En el principio fue loop y luego yo bailo. Soy la chica esa rara del calendario. Yo era el negro loop con sabor colombiano. Me está rompiendo recio, me está rompiendo diario. Chicas sí, pero sin atadura. No estamos jóvenes, tampoco maduras. Pero vamos buscando aventuras. Donde nos llamen, estamos seguras. Somos combo internacional. Tomamos Fernet, tomamos mezcal. Pero sobre todo nos gusta bailar. Vamos a la pista, cumbre va a tocar. Vamos a la pista, cumbre va a tocar. Yo digo queer si tú dices cumbia. Yo digo queer si tú dices cumbia. Yo digo queer si tú dices cumbia. Yo digo cumbia queer.
Cumbia.
En el principio fue loop y tiro escenario. Voy con mi pandilla haciendo lo necesario. Voy haciendo más arengando a la gente. Hoy en una llena y la chica está caliente. Sintiendo el sabor del señor Santo Pit. Soy más milagrosa que el gauchito Pit. Sintiendo el sabor del señor Santo Pit. Soy más milagrosa que el gauchito Pit.
Gauchito Pit.
Si tú dices cumbia, yo digo queer. Si tú dices cumbia, yo digo queer. Si tú dices cumbia, yo digo cumbia queer.
Cumbia queer.